La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+, présentée par Babette Soulier-Laporte et Luc Olivier Bossé.
Eh bien, bonjour chers auditeurs, nous voilà de retour après la trêve estivale. Pour reprendre notre émission La Bible Parfum de Scandale, je crois que je n'ai pas cherché la rime, désolé. Et donc nous sommes tous les deux, donc Luc-Olivier Bossé, qui est pasteur de l'église protestante unie de Montpellier et alentour.
Bonjour Babette.
Bonjour Luc-Olivier.
Bonjour à tous.
Et qui donc va répondre à mes questions. Donc moi je suis Babette Soulier-Laporte et je m'intéresse beaucoup aux textes bibliques qui... Comment dire, et mettre un petit parfum de scandale au sens d'obstacle à la foi, hein, bien sûr, pas au sens de mon Dieu, c'est scandaleux.
Oui, mais je te trouve justement avec ces questions
un peu remontées.
Mais oui, mais c'est important. On parle toujours de sainte colère, hein, Jésus qui chasse les marsans du temple, et puis on dit la sainte colère. Mais il y a aussi des saines révoltes, c'est-à-dire il y a des textes qui nous résistent et on ne peut pas simplement accepter que parce que c'est écrit, parce que ça devrait être comme ça. Au contraire, il faut aller plus loin, il faut dépasser tout ça. Et grâce à tes questions. On est poussé chacun hors de notre zone de confort.
Certaines colères justes, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes où, effectivement, où se déchaîne la haine et la violence. On a commencé, en fait, nous, de fratricide en viol, vous allez reconnaître évidemment les textes, de quasi-infanticide en inceste, d'injustice en conflit. Donc la Bible, effectivement, n'évacue rien du côté très sombre de l'humanité. Et donc la lecture est dérangeante. La lecture de la Bible, moi, je la trouve dérangeante, même pour le croyant. Et donc notre but, c'est essayer de sortir par le haut, en fait, en réaffirmant l'amour de Dieu pour l'homme et la nécessaire fraternité entre les hommes. C'est un peu le fil rouge de nos échanges, même si on part toujours de quelque chose d'assez rude.
Oui.
Rugueux, tu dis en général. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais ce qui m'intéresse aussi pour toi, Babette, qu'est-ce qui fait que toi, tu continues à t'intéresser à ces textes bibliques, même s'ils sont comme ça rudes et rugueux?
Parce que j'ai l'impression que c'est dans le doute qu'il y a la foi, moi ça c'est bon, mon opinion personnelle, et que ça... Oui, c'est ça, c'est que le texte biblique me paraît paradoxal par essence et par forme. Vraiment. Et ce paradoxe qui est... moi j'aime bien les pensées paradoxales, je trouve qu'il jaillit beaucoup de choses et beaucoup de lumière du paradoxe. Voilà. Parce que quand on les lit au premier niveau... Si je rappelle juste les 7 émissions précédentes qu'on a enregistrées, donc il y avait Cain et Abel, excusez du peu quand même, la ligature d'Isaac, Lot et ses habitants de Sodome, Lot et ses filles, voilà, donc débauche, inceste, quasi-infanticide, ça fait quand même un peu beaucoup. Et on avait commencé quand même à aborder le Nouveau Testament à la fin de l'année scolaire, et donc on avait abordé la parabole des talents et les ouvriers de la 11e heure. Et donc là, on va continuer avec un autre texte du Nouveau Testament, avec l'idée que, on a toujours cette idée que voilà, avec le Nouveau Testament, c'est bon, il y a la Nouvelle Alliance, le Christ arrive, on a un sucre d'orge, c'est bien, il n'y a plus de soucis.
Il y a de l'amour,
voilà.
Il y a de la paix,
voilà.
Il y a de la joie.
Voilà. Peace and love, aurait-on dit à mon époque, mais voilà, et ben non, quoi. Enfin, quand on lit la Bible vraiment... Il y a des textes qui sont assez difficiles, je trouve.
Oui, et voilà. Surtout qui sont placés aussi dans la bouche du Christ, parce que souvent on dit le Christ est une personne qui prêche l'amour et la paix.
Mais elle est face à, oui.
Et même la non-violence.
Tout à fait.
Et du coup, là, aujourd'hui, tu veux attirer notre attention sur une parole du Christ qui est dans l'évangile de Matthieu.
Tout à fait.
Et qui va à l'encontre de tout ça.
Qui n'est pas vraiment du Gandhi, dirons-nous.
Au premier abord.
Au premier abord, bien
Au
sûr.
Premier abord.
Donc, il s'agit en fait de Matthieu 10, 34-42. Donc, Luc-Olivier va lire le texte. Mais voilà, il déclare, il est là, Jésus, et il déclare tout de go à ses disciples qu'il va envoyer. Donc, il faut quand même qu'il leur donne un peu de grain à moudre, un peu de foi, un peu de, je ne sais pas, de quelque chose qui va leur permettre de faire la route, à tous les sens du terme, de cheminer. Eh bien non, il leur dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Bon, et alors, on pourrait se dire, bon, ben, c'est Matthieu, d'accord, très bien. Mais non, dans Luc 2, 14... dans Luc aussi, il y a un autre texte qui est comme ça aussi. Hein. Alors que dans l'état de 14, je me suis trompée. Au contraire, c'est là où on a paix sur la terre parmi les hommes qui de bonne volonté.
C'est le récit
de
Noël. C'est le récit de Noël que tout le monde a peut-être.
Un enfant nous est né.
Voilà
un fils nous est donné. Le prince de la paix. Dans Ésaïe. Hein, voilà, pareil. Il y a de multiples exemples. Eh ben non, là, on a vraiment l'inverse. Donc, voilà, si tu veux bien lire ce texte.
Comment s'en sortir avec cette histoire,
hein. Voilà, exactement.
Eh ben très bien. Ben, d'abord, prenons le temps de relire ou de lire, de découvrir ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 34. Et c'est le Christ qui parle. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste, obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. »
Bon, la note finale est un petit peu plus positive, on va dire, mais enfin, le début est extrêmement rude, quand même. Pourquoi dire « j'apporte la guerre » ? Pourquoi ne pas dire « j'apporte la paix et la guerre » ? À la rigueur, on pourrait comprendre, parce que on pourrait comprendre, si vous me suivez, vous aurez la paix de l'âme, la paix de l'esprit, enfin, etc. Et puis, bon, la guerre, effectivement, on va vous la faire parce que vous allez prêcher une parole qui dérange et qui va, les gens vont s'opposer, ça va contre les Romains, ça va contre les Juifs, enfin, de l'époque, la religion, qui était dominante. Pourquoi exclure la paix ? C'est quelque chose qui...
Il est radical, là.
Il est radical, et ça fait un peu le jeu de ceux qui disent « Ah ben, regardez, la religion, ça pousse les gens à faire des guerres.
Ah ben,
les guerres de religion, le djihad, etc. »
C'est ça, et je rencontre souvent des personnes qui disent « Moi, je ne suis plus croyant à cause des guerres de religion. »
Exactement.
Donc, effectivement, cette question, elle mérite d'être posée. Mais j'attire ton attention sur le début. Jésus, avant de dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais... » L'épée. Il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
Ouais. »
Ne pensez pas. Et c'est comme s'il cherchait à dissiper un malentendu autour de ce qu'est la paix. Les conditions qui permettent à la paix d'advenir. Parce que c'est exactement ce qu'on disait au début. J'ai l'impression que Jésus, il parle à notre époque avec toutes les représentations qu'on peut avoir d'un Jésus pacifiste, bienveillant, tendre, toujours accueillant, toujours bienveillant, toujours... Eh bien, il dit, mais non, c'est pas ça. Tu parlais du sucre d'orge tout à l'heure. C'est pas sucré, l'évangile. C'est pas que des bons sentiments. C'est pas dégoulinant de bonnes valeurs et tout ça. Au contraire, il y a un piquant. Et là, Jésus prend le contre-pied, déjà à son époque, de comment vous vous représentez la paix ? Comment vous vous représentez celui qui doit faire advenir la paix ? Parce qu'il s'adresse à des disciples qu'il forme. Ils sont en train de se préparer à aller au contact des autres. Ils sont en train de sortir de leur période de formation, le petit cocon où ils étaient bien entre eux, où ils ont réussi à s'adoucir entre eux mutuellement. Tout allait, on va dire, plutôt... pas mal. Oui. Et donc, ils vont affronter le vent du large, ils vont affronter des inconnus. Et là, Jésus veut dissiper un malentendu, c'est-à-dire ne soyez pas envoyés comme si toujours la paix à toutes les conditions. La paix, qu'est-ce que c'est vraiment ? Et là, il les pique dans leur curiosité pour qu'on n'en reste pas à des belles représentations, mais qu'on aille plus loin. D'ailleurs, il dit, quand vous en, juste avant, hein, dans le chapitre 10 de Matthieu, au verset 13, là on a lu le verset 34 du même chapitre, mais quand il disait, vous allez entrer dans les maisons, et bien à ce moment-là, saluez-la. Et dans le saluez-la, hein, en grec, il y a l'idée de transmettre la paix. C'est le shalom.
C'est ça.
Donc, donnez-lui la paix. La maison est digne que la paix, si la maison est digne, que la paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Donc, ils vont bien dans un état d'esprit de paix. Il faut bien apporter la paix aux hommes. Mais Jésus, en fait, prend le contre-pied de l'idée d'un messie pacificateur.
Oui, mais c'est pas là. Je me souviens de ce passage où avec les tentes dans la maison, etc. Mais est-ce que c'est pas, s'ils n'ont pas été sympas, en gros, tu secoues la poussière de tes...
Oui.
Voilà, donc c'est un peu, il y a un côté un peu, pas méprisant, mais un côté un peu, bon, bah, s'ils veulent pas entendre, bah, tant pis pour eux, en gros.
Oui,
c'est
mais ça,
ça
veut
dire. Me gêne.
Alors, je comprends, hein, mais c'est pas méprisant. C'est-à-dire que
j'imagine.
S'ils veulent pas entendre, eh bien, n'insistez pas. Ne cherchez pas, continuez votre chemin. C'est que la situation n'est pas mûre.
Oui.
C'est que le contexte n'est pas favorable.
D'accord.
Et donc, au lieu de s'épuiser à vouloir convaincre, à vouloir absolument, ben non.
Ça n'est pas le temps.
Continuez votre route.
Il y a un temps pour tout.
Et puis de secouer la poussière. Alors ça peut être vu comme un geste de mais c'est aussi une façon de se détacher.
Oui.
C'est-à-dire de ne pas garder l'agressivité sur soi. Parce qu'on voit bien, encore pas plus tard qu'il y a, en arrivant ici, une personne m'a parlé un peu de manière, dans la rue, hein, de manière un peu vive.
Ouais.
Ben voilà, il faut pas se laisser envahir par ça.
Oui.
Et donc, continuons notre route. Mm. On peut garder après cette agressivité en soi, on peut la porter, elle peut nous ronger.
Tout donc, à fait.
Là, l'idée, c'est aussi de s'en détacher.
Ouais. Et est-ce que ces explications qu'on voit quelquefois aussi sur le Christ, en fait, veut dissocier la paix qu'il souhaite apporter au monde et qu'il souhaite que le monde, en fait, pratique en son nom, de la Pax Romana, de ce qui était la paix politique, en fait, à son époque, où c'était finalement, c'était une paix, mais imposée, chape de plomb, enfin, pas du tout... Voilà, en fait, l'Empire romain s'est quand même créé dans la douleur aussi, dans la violence. Donc,
oui, complètement.
Il veut dire que lui, est-ce qu'on est sur un autre niveau, un autre niveau, pour une fois, niveau à son sens, un autre niveau de paix, en fait. Est-ce que il s'agit de, voilà.
Alors, je pense. Ouais. Je pense que c'est effectivement, il faut aller creuser derrière la notion de paix, dans la notion de paix, pour voir ce qu'on peut en extraire. Et alors, du coup, passons par l'hébreu. Donc, le mot paix, en hébreu, c'est shalom.
Oui.
Et shalom, en fait, c'est plusieurs lettres. C'est le shesh, c'est le sha. Hein, donc, c'est le shesh. Ensuite, c'est le lamed, avec le vav. Et puis, c'est le maim.
D'accord.
Et donc, ces trois lettres, sh, le, avec le vav, ça peut faire l'eau, loup, voilà, lèvres.
Ouais,
et puis le maim, c'est le m, le dernier mot de shalom.
Ouais.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, la première lettre, le shesh, c'est le feu. Ça veut dire le feu.
Ah, parce qu'il en... Alors, ça y est dans Luc aussi, ça. Je viens t'apporter le feu.
Tout à fait.
Je suis venu jeter un feu sur la terre. Luc 12, 49, 53.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, et c'est vrai qu'il là, il parle comme j'aimerais qu'il
maison.
Soit déjà allumé.
Oui, voilà. Et c'est dans une maison, s'il y a 5 personnes, il y aura 3 personnes contre 2.
Voilà. Alors, on voit que c'est un peu proche, mais c'est un petit peu différent. Parce
d'accord.
que dans la logique pardon. Hébraïque, ouais. c'est l'idée du feu, hein, la première lettre.
Oui.
La dernière lettre, maim, c'est l'idée de l'eau.
Ah oui.
Même, en fait, ça c'est la lettre. Et maim, c'est l'eau.
D'accord.
Et le feu et l'eau, on est d'accord que c'est les contraires.
Tout à fait.
C'est l'antagonisme absolu. Donc dans le mot paix, vous avez les deux pôles qui sont radicalement opposés. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les lettres du milieu, le lamed et le vav, c'est aussi les lettres qu'on utilise pour dire lève, le cœur.
Ah.
Et donc shalom, c'est le mot qui arrive à articuler l'eau avec le feu dans le même mot pour que ça puisse cohabiter. En fait, c'est l'idée de trouver l'articulation, trouver le lien qui permette à ce que l'eau et le feu soient dans le même mot. Ils habitent.
C'est
bien. Pour que cette articulation puisse advenir, il faut que ça passe par le cœur. C'est-à-dire, il faut que ça passe dans la théologie hébraïque, biblique. Le cœur, c'est pas le lieu des sentiments, c'est pas le lieu des émotions.
Ouais.
C'est plutôt la forge. C'est-à-dire que c'est le lieu intime qui rassemble à la fois ce qui vient des entrailles, ce qui vient de la tête. C'est la forge qui rassemble tout cela et qui travaille les émotions, qui travaille les idées.
C'est un peu le haras, c'est amusant.
Ah, voilà, oui, alors ça c'est vrai que
ouais,
c'est du côté zen, hein,
oui,
le hara.
Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Mais le lev, c'est le cœur. Et donc, c'est la forge qui retravaille tout pour ciseler les choses de manière à ce que ça puisse aboutir à une œuvre qui peut être le produit d'une forge, c'est-à-dire ça peut être après des outils du quotidien, ça peut être des objets du quotidien. Bon, bref, mais ça veut dire que là, dans ce mot, vous avez tout ça. Et je trouve extraordinaire de se dire, les antagonismes sont repris tout ça passe par le cœur pour être retravaillé, pour que la paix ne soit pas une paix factice, une paix, on disait, sucre d'orge,
oui, hein, oui,
mais
fait.
Que ce soit une paix authentique, une paix solide, parce que ce qui sort de la forge, ce n'est pas quelque chose qui se casse au premier truc, c'est quelque chose qui tient la route. Et donc, l'enjeu de la paix, c'est ça, c'est de faire advenir cette relation entre ce qui est opposé, pour que ça puisse déboucher sur une relation stable, sur une situation stable,
d'accord,
durable.
Oui.
Donc effectivement, est-ce que c'est le sens de la Pax Romana, qui était une union imposée par l'envahisseur ?
Bien
et c'est
sûr,
vrai qu'elle
oui.
a eu des fruits,
oui,
des vertus très, très importantes, tout ce qu'on veut. Mais là, le shalom, il est vu, je pense... quand on parle du cœur, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui aussi nous traverse et nous vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit émerger du plus profond de la situation, de la relation, de nous-mêmes.
D'accord. Oui, je comprends. Bon, il y a le contexte dont on n'a pas parlé, mais que la plupart des gens connaissent, sur le fait qu'effectivement les premiers chrétiens ont été persécutés, les fosses aux lions, etc., les disciples, voilà, et tous les Saint-Étienne, je crois que c'est, enfin, je ne sais plus quelle est la date, du premier martyr, mais
oui,
bon, voilà,
dans Acte 9.
Voilà, il y en a pas mal. Donc, il y a simplement une dimension historique aussi, politique avec la Pax Romana, historique sans doute avec cette... les disciples doivent s'attendre à être emprisonnés, à être... etc. On ne va pas les accueillir en bienfaiteurs, bien sûr. Et donc, il apporte aussi une parole, comme tu dis, qui heurte, qui dérange l'ordre établi, simplement si on reste sur le plan... voilà. Mais je trouve intéressant de partir dans cette histoire de cœur et d'aller au fond des choses, finalement, parce qu'il y a autre chose, moi, qui m'a gênée dans ce texte et qui est aussi quelque chose qui a à voir avec la matrice finalement familiale, pourquoi préciser que les luttes seront d'abord et surtout intrafamiliales?
Alors, on va y venir.
Voilà, d'accord.
Mais juste avant, j'aimerais revenir sur ce que tu disais en disant les persécutions.
Oui.
Luther, quand il a commenté ce verset de l'Évangile, il disait, attention, Jésus, il n'a pas dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je vous donne l'épée pour que vous alliez faire la guerre.
Ça paraît très curieux, oui. Ça.
Non,
oui.
En fait, il disait, Luther, il faut faire la différence entre le sens passif de cette épée ou le sens actif.
Ah.
Le sens actif, c'est-à-dire, je vous donne une épée pour que vous l'utilisiez pour blesser l'autre. Mais le sens passif, c'est-à-dire, il y a une épée qui va survenir, j'apporte l'épée dans le sens, je fais survenir quelque chose qui est de l'ordre de l'épée, et du coup, ça va venir trancher les liens entre vous. Et le sens passif, c'est-à-dire que vous subirez ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aller avec l'intention de la paix, mais au lieu que le retour ce soit de la paix, le retour, ça va être l'épée. Et donc, c'est en lien avec ces persécutions. C'est-à-dire que là, on ne sait pas la réaction des personnes. Quand on est dans un projet, quand on est dans un groupe, nous pouvons être dans une disposition d'aller à la rencontre de l'autre dans une démarche de paix, mais nous ne savons pas en retour ce qui va advenir.
Ce qu'on aura, oui.
Et donc, je pense que c'est vraiment cette notion de passivité qu'il faut mettre en valeur dans ce verset. Et je suis venu apporter l'épée. En fait, il y a une épée qui va surgir à quelque part.
Qui va être forgée, là, aussi.
Et
au plus fort intérieur.
C'est ça. Et donc, cette épée, elle va... Le fruit du message, le fruit de la présence du chrétien ou le message de l'évangile, c'est pas nécessairement tout de suite de la paix. Mais ça peut faire survenir quelque chose qui peut faire mal, qui peut blesser. Donc, une épée qui va surgir. On ne sait d'où, mais...
Elle sera là.
Elle sera là.
Oui, bien sûr. Oui. Et donc pour ces luttes intrafamiliales, parce que c'est fort, c'est la division entre père et fils, mère et fille, belle-mère et belle-fille. On a toujours eu cette idée en fait que division, diabolo, c'est le diable, quoi.
C'est la division.
Étymologiquement la division, voilà. Et donc est-ce que ça veut dire que ceux qui seront chrétiens vont être contre ceux qui disent bah non, moi je suis athée et ce que tu me racontes m'intéresse pas, bon. Bon, après, est-ce que c'est dramatique au fond qu'il y ait certaines personnes qui suivent et d'autres qui ne suivent pas? Est-ce que ça mérite de dire que c'est une lutte, quoi, et que c'est pas juste, hein, comment dire, chacun se détermine et après tout, si Dieu pardonne à tout le monde, Voilà, c'est un peu une vision un peu tiède qu'on a maintenant, je dirais, au XXIe siècle. Mais
oui.
Voilà, donc...
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le mot utilisé par épée, pour épée, c'est Makaira.
D'accord.
Makaira, Machaira, ça dépend comment on prononce. Et en fait, à l'époque, c'est pas l'épée du guerrier, le Machaira, c'est une épée courte, un couteau. Blaise Pascal, il connaît encore cette traduction du mot couteau, puisque dans une lettre qu'il écrivait en 1656, il a écrit « Jésus est venu apporter le couteau et non la paix ».
Ah, oui.
Et au fond, je pense que c'est intéressant de souligner ceci, parce que c'est le couteau aussi qu'on utilisait pour faire les sacrifices. Vous savez, séparer les différentes pièces de l'animal, pour après ensuite préparer celles qui allaient être offertes en sacrifice et celles qui allaient être données au temple pour les prêtres. Et puis aussi l'étymologie du sacrifice, c'est-à-dire on coupait les différentes parts et on donnait une part aux différentes personnes qui venaient faire une alliance. En hébreu, on dit d'ailleurs pour nouer une alliance, on dit trancher, katat berit.
Sauf dans l'Holocauste, où tout partait.
Oui, l'Holocauste, c'est le sacrifice où tout est donné.
Tout est donné.
Tout est donné. Mais les autres sacrifices, il y avait toujours une part qui en revenait au prêtre ou aux autres personnes. Et donc, du coup, là, il y a cette démarche de dire le couteau convoque tout ça en arrière-fond.
Oui.
Et donc, ce n'est pas nécessairement le côté belliqueux qui apparaît, mais c'est le côté de séparation.
D'accord.
Et donc, le verset, par exemple, 34, quand il dit... Alors, il faut juste que je le retrouve, le verset 34. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division. » Et c'est cette idée de séparation là, qui apparaît. C'est l'idée de couper en deux, de diviser ce qui était uni, ce qui était peut-être trop uni, ce qui était de l'ordre de la fusion. Au contraire, tac, on fait apparaître une distance. Et donc, plutôt que dresser contre, on pourrait se dire le fils va être dressé contre son père, la fille contre sa mère. C'est plutôt de séparer une personne d'une autre quand il y a fusion. Justement, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les relations qui sont mentionnées, c'est pas des relations lointaines, parce que les relations lointaines de le prochain que j'ai pas encore rencontré, qu'il me faut aimer, je peux toujours bien fantasmer sur lui, il y a pas de problème. Mais dans le cercle familial, dans le quotidien, là où les relations sont les plus épaisses, eh bien, c'est dans ce contexte-là que Jésus est venu apporter une distinction, une séparation. Il y a des relations qui sont tellement unies, d'extérieur, elles paraissent paisibles. Mais en fait, c'est qu'une paix de façade. Parce que quand on creuse, on remarque que dans cette relation, il n'y a pas la liberté. L'un n'a pas l'espace pour exister. Il est à l'ombre de l'autre. Il ne s'affronte pas à l'autre parce que c'est trop risqué.
Oui.
Mais de fait, du coup, il dépérit. Il n'existe pas en tant qu'individu, en tant que personne unique. Et le fils ne fait qu'un avec son père, mais du coup, il ne devient pas fils. Il devient le même que son père.
Son père,
jusqu'à ce que le père meure, et à ce moment-là, il peut enfin exister. Donc, pour éviter cette fusion, cette relation où il n'y a pas de distinction, Jésus est venu diviser, c'est-à-dire couper en deux pour que chacun ait sa part.
Individualiser finalement les gens.
Oui, individualiser.
D'une certaine façon, oui.
Parce que tu parlais du diable, et c'est vrai que le diable, c'est diabolos. Mais là, il n'y a pas... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que dans Luc, il est dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la division.
Division, oui.
Mais là, le mot division, ce n'est pas le mot diabolos qui est mis. C'est diamerismos. Et l'idée, c'est meros, c'est la part. Et donc, c'est l'idée de séparer en parts.
D'accord, c'est la même chose en fait.
Mais c'est ça.
Oui,
et,
tout à fait.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand il parle de couteau, Matthieu, il parle de l'élément concret qui permet la séparation. Et Jésus, quand il parle de division, il parle de la finalité. C'est qu'il faut que chacun puisse avoir sa part.
D'accord.
Voilà.
Ça, d'accord. Donc, on va peut-être finir finir la première partie de l'émission sur la famille, parce que je ne sais pas combien on est, mais on doit être un petit peu à moitié de l'émission, non ? Et donc, J'entends ce que tu dis. Je trouve ça très, très intéressant, je pense, de revenir au texte, parce que le texte n'est pas du tout... Enfin, ne prête pas du tout aux mêmes interprétations, justement. Mais... Un peu plus loin, dans le verset 37,
oui.
On nous demande de choisir entre le Christ et notre famille.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir entre... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ? Ça rappelle un petit peu, moi, quelque chose qui m'avait toujours choquée quand Jésus, sa mère vient, et puis il lui dit, mais en gros, on rentre à la maison. tu vois bien que je suis dans la maison de mon père, je parle avec mon père. Enfin, je ne sais plus quand est-ce que c'était, quand il était au temple, je crois.
Hein, oui,
voilà.
Oui, oui.
Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que voilà, il faut, pour être un bon chrétien, il faut être quelqu'un qui fera passer son amour du Christ avant les intérêts familiaux ou les attachements familiaux, parce qu'ils sont peut-être trop, comme tu dis, toxiques ou... Voilà.
Alors, je trouve que c'est difficile dans l'abstrait de dire il faut donner la priorité sur l'un par rapport à l'autre.
Mmh. C'est un peu ce que dit le texte.
Bien sûr, mais ouais. Simplement, moi je crois que là derrière, il y a cet enjeu. Dans quelle mesure la famille est le lieu où chacun a sa part ?
Ah oui,
dans quelle mesure la famille est le lieu qui permet à ce que la vocation profonde de chacun puisse s'épanouir, dans quelle famille la possibilité d'aimer Dieu et son prochain puisse pleinement... Et à ce moment-là, ok, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que si on fait de la famille la priorité l'absolue, ça peut être aussi un lieu qui étouffe, qui empêche les personnes d'advenir. Aux États-Unis, il y a une devise qui dit « The family that prays together, stay together
».
Une famille qui prie ensemble reste unie.
Voilà, reste unie, oui.
Et au nom de ça, il y a une sorte de convention sociale, c'est qu'il faut absolument prier. Et là, à mon avis, ça pose un problème. Ça veut dire qu'on fait de la prière le ciment familial, mais où est la part de chacun là-dedans ?
Et elle n'a pas la même importance, la prière pour chacun, etc. Ah oui, non, c'est sûr, moi, je comprends bien.
Et en fait, c'est contre cette logique-là que je pense que l'Évangile viendra toujours nous interpeller.
Tout à fait.
C'est-à-dire que... Jésus viendra toujours travailler les représentations qu'on a de la paix, de la famille, de manière à ce que le couteau passe et que l'un se sente autorisé à exister pleinement pour ce qu'il est et que l'autre accepte cette différenciation et que dans cette reconnaissance mutuelle, eh bien, un lien, une alliance peut se tisser. Rappelez-vous, en hébreu, c'est l'idée de trancher une alliance et qu'au fond, trancher, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lien, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre la séparation, mais ça veut dire que le lien, il passe par la parole.
Ouais.
Ça veut dire que le lien, il ne passe pas par des conventions implicites qui ne permettraient pas à l'autre, un jour, de dire à son père ou qu'un père n'oserait pas dire à son fils « Eh bien, écoute, aujourd'hui, je fais ça ou je décide de ça. » Si la parole ne peut pas circuler, le couteau a besoin de passer.
Oui, voilà. On revient au couteau et à la parole. C'est amusant, hein, parce que c'est la verbalisation un peu qui individualise. Hein.
Oui.
Bon, on va peut-être prendre une petite pause musicale, donc avec une chanson de Emel qui s'appelle « Kelmti Ora » et qui me semble bien collée à ce qu'on vient de dire.
I'm not afraid.
c'était donc Kelmti Orad Emel, donc elle avait composé au moment de la révolution tunisienne, et je trouve que ça, voilà, ça, on a à la fois ce paradoxe justement de la souffrance et de la lumière et de l'interpénétration des deux, mais aussi de la nécessaire séparation entre les deux. Donc on revient un petit peu à ce que tu as analysé sur le glaive et la famille, je trouve. Dans le verset 38, donc ça se poursuit un petit peu ce texte en nous disant, en gros, pourquoi est-ce qu'il faudrait nous aussi porter notre croix, en fait, c'est ça. C'est, bon d'accord, les premiers chrétiens, témoigner aujourd'hui, c'est pas vraiment dangereux, dans nos pays en tout cas, hein, ça expose souvent à la moquerie, ceci dit. Hein. Moi j'ai souvent entendu, t'as fait des études et quand même t'es croyante, voilà, ce genre de choses, un peu de condescendance, voilà. Donc la foi est vue comme une faiblesse, en fait, dans le domaine de l'intelligence, je trouve, et une faille dans le domaine de la raison, voilà. Et on peut, bien sûr, le payer de sa vie encore, d'être chrétien ou... Enfin, croyant d'une chose ou d'une autre dans certains pays, bien sûr. Mais donc Jésus, alors qu'il est venu apporter la paix, il ne rencontre que le glaive, et donc il en arrive à porter une croix, et Dieu sait, voilà, on sait de quelle croix il s'agit. Et nous, il faudrait qu'à sa suite, on souffre.
Oui, alors.
Moi, j'ai mal compris le verset 38. Voilà. Non, ça me paraît bizarre.
C'est là aussi. Il y a la croix et la résurrection dans l'évangile. Oui. Donc il y a la souffrance. Et il y a le dépassement de cette souffrance. Mais c'est comment aujourd'hui habiter ces deux dimensions. Tu parlais du glaive. En fait, il apporte pas le glaive. Il apporte justement ce couteau. Oui.
C'est une des traductions d'une autre Bible que j'ai.
Mais j'ai compris,
c'est le couteau. Ouais.
C'est ça. Et en fait, sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole vient mettre du tranchant dans des représentations qu'on peut avoir dans les modus vivendi auxquels on s'était habitué. Et donc, c'est vrai, Jésus apporte la séparation. C'est pas une séparation facile. Parfois, cette distinction, on n'a pas envie. On n'a pas envie de la vivre. On n'a pas envie de la subir. On n'a pas envie. Et donc, de mettre le doigt sur ces choses-là, ça peut provoquer en face ou en nous une forte résistance qui peut déboucher sur de l'agressivité et de la violence. Alors, cette idée de, il apporte le couteau, ça veut dire qu'il il invite à ce que chacun ne soit pas mélangé à l'autre. Mais du coup, ça provoque aussi une séparation. Il y a ceux qui acceptent le passage du couteau dans les liens, dans le quotidien. Et puis, il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Ouais. Et comment est-ce qu'on réagit dans un tel contexte? Alors, il y a ceux qui n'acceptent pas et donc qui vont surenchérir, qui vont réagir. Et dans ces moments-là, la croix, c'est le symbole de, je crois, le Christ qui va jusqu'au bout de la démarche. Dans cette confiance, c'est une sorte de plongeon, un plongeon dans la non-maîtrise, dans cette confiance qu'en restant fidèle à la parole et non pas à prendre les armes pour détruire l'adversaire, pour détruire l'autre, et bien que tout ça sera repris et tout ça sera porté à son accomplissement, et que dans la mémoire de Dieu, rien de ce qui est authentique et profond et vrai ne sera perdu. Et donc, on voit ici le symbole de la croix et de la résurrection. La croix, c'est pas que le symbole de la souffrance, en tout cas pour nous protestants. La croix, dans nos temples, quand il y en a, il n'y a pas de Jésus, c'est pas un crucifix, c'est des croix nues. Et pourquoi est-ce qu'elles sont nues? Pourquoi il y a juste simplement le...
Parce qu'il est parti.
Mais oui, parce qu'il n'est plus
là, bien sûr.
Et donc, c'est le rappel du passage, mais c'est pas... C'est pas la finalité.
Non.
Et donc, c'est derrière le mot croix, c'est pas une apologie de la souffrance ou du dolorisme, mais c'est d'accepter le prix que certaines situations nous font endurer dans cette confiance que même si à vue humaine ça nous paraît improbable, que ce n'est pas que la résistance, que l'opposition qui est qu'on subit, dont on souffre, c'est pas le bout du chemin. Il y a quelque chose d'autre qui peut advenir. Mais tout ça, c'est, on va dire, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de notre maîtrise. Ce n'est pas nous qui allons le provoquer, le faire advenir. C'est que c'est une promesse qui est faite. Et donc, nous vivons dans l'horizon de cette promesse-là.
Oui, je comprends. Mais est-ce qu'il y a l'idée quand même que les gens qui ont souffert pour leur foi, finalement, ont plus de valeur ? Je veux dire, on a des ancêtres huguenots qui sont partis aux galères pour les hommes et à la tour de Constance pour les femmes. Est-ce que tout le monde a eu le courage de faire ça? Non. Est-ce que nous aurions eu le courage de faire ça? On ne sait pas. Est-ce que dans ce verset 38, justement, il n'y a pas cette idée que, comment dire, suivre le Christ, il faut aussi accepter cette part de souffrance, de souffrance.
Oui, alors, dans le verset 38... celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi.
Voilà.
Et dans le mot digne, alors moi j'entends que tu dis, est-ce que ça veut dire qu'il n'aurait pas de valeur? Au fond, moi je crois que c'est de dire que c'est inévitable, mais que au fond, dans la perspective biblique, la valeur profonde de l'individu, elle ne dépend pas fondamentalement de ses actes. Il y a quelque chose d'autre qui nous porte. C'est au-delà. Digne, c'est-à-dire, c'est qu'il ne répond pas nécessairement à l'appel. Il n'est pas dans la perspective de la promesse. Mais là aussi, quand on voit, quand on médite profondément tout ce qui se dit autour de la croix rappelle que l'amour du Christ, l'amour manifesté, incarné par le Christ, eh bien, il est fiable puisque il l'a vécu jusqu'au bout.
Oui.
Et que la croix aussi vient révéler que il y a une violence qui se manifeste et donc qui comme une sorte de dévoilement, on voit cette violence apparaître, mais il y a pas le jugement qui est porté sur les violents, c'est pas un jugement destructeur, parce que dans les apocalypses qui existaient à l'époque, notamment les apocalypses qui étaient fréquentes dans les milieux esséniens, le moment du jugement final était vu comme le moment de d'extermination, c'est-à-dire que les violents, ceux qui s'opposaient au fils de lumière, les fils des ténèbres allait être englouti. Oui. Et en fait, la croix, c'est pas ça. La croix, c'est que le pécheur, celui qui... Mais le symbole même, c'est cet officier romain qui est au pied de la... Eh bien, qui adhère, qui, au fond, vit un bouleversement intérieur et confesse que cet homme était le fils de Dieu. Donc, n'est pas digne de moi, c'est-à-dire que moi, j'entends... il y a une qualité de... L'évangile nous invite à une qualité de relation et si on évacue la croix au sens... On n'a pas envie de l'intégrer dans notre façon d'être en relation avec les autres. Si c'est toujours pour nous quelque chose qui... si on ne se coltine pas avec la souffrance à un moment donné au sens de la résistance de l'autre, des aspérités, des conflits, eh bien... À quelque part, c'est que on se laisse pas évangéliser jusqu'au bout, mais il n'y a pas à vivre ça dans une démarche doloriste
voilà, en
faisant quelque chose de un vrai chrétien devrait nécessairement souffrir.
Oui.
On n'en est absolument pas là.
D'accord.
Hein. Mais c'est une ligne de crête. Et quand je parle comme ça, j'avoue.
C'est une ligne de crête, je comprends.
Je balbutie un peu parce que c'est pas évident à entendre.
Non.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des épreuves qui nous arrivent, qu'on n'a pas choisies, et que l'enjeu, ce n'est pas de savoir si c'est voulu ou pas voulu par Dieu, c'est de les vivre dans cette optique évangélique
de confiance.
Dans ça, eh bien, rappelons-nous, la croix, eh bien, le Christ n'est plus dessus, c'est un passage, et il y a une promesse qui nous est adressée, et c'est d'être attentif et de tendre l'oreille pour faire confiance à cette promesse, pour aller plus loin que la croix.
Oui, je comprends. Et moi, dans la croix, ce que j'ai toujours vu et moi, qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est ce côté horizontal et vertical. Et donc, le fait qu'à cet endroit-là se croisent justement au moins deux dimensions, si ce n'est plus, mais en tout cas au moins deux dimensions. Et que donc, ça permet d'être conscient de ce que... comment dire, de ce que ce monde que nous voyons n'est pas la fin de la chose aussi, fin de l'histoire.
Oui.
Et que donc, ça, voilà, suivre en prenant sa croix aussi, c'est ne pas oublier une certaine transcendance, tout simplement.
C'est ça.
Et donc ça, moi, je trouve ça, voilà. Dans ce sens-là, ça me va. Bon, je m'arrange un peu. Hein,
non, mais l'horizontal, ce serait justement le côté souffrance, le côté...
De la vie de tous les jours, de tous les ennuis qu'on a, de toutes les épreuves qu'on a tous subies.
J'espère que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que des ennuis.
Non, bien sûr.
Mais je veux dire, on se comprend quand on dit ça.
Ouais.
Et puis que la verticalité, c'est de rappeler qu'il y a un horizon qui peut dépasser tout cela. Et c'est vrai que ça se découvre dans la profondeur du vécu, mais pas en évacuant ce vécu.
Oui. Bon, on a commencé à répondre à mon avant-dernière question là sur le verset 39, parce que le verset 39 donne un petit peu l'impression, quand lu comme ça au premier degré, qu'il faut en gros choisir entre Dieu et notre vie, entre suivre le Christ et mourir. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais ça me... je ne sais pas si ça fait référence aux persécutions sous Néron, hein, qui accuse les chrétiens
d'avoir... Qui aura assuré sa vie, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, l'assurera.
Voilà. C'est ça. Est-ce que voilà, ça fait référence aux persécutions. Moi, ça m'a toujours bluffé, cette histoire de bon, Néron qui accuse qui accuse les chrétiens d'avoir incendié Rome. Ça, c'est pas mal. Et l'ironie de l'histoire, il y a une volte-face en 392. Donc, c'est l'édit de Théodose qui fait de la religion chrétienne non seulement la religion officielle, mais en plus la seule autorisée. Donc, enfin voilà. Donc, d'où le massacre de païens par des chrétiens déchaînés d'ailleurs.
Hein, oui,
apparemment,
oui,
c'est
oui.
documenté, ça sur le plan historique aussi.
Oui.
Voilà. Mais donc, que veut dire suivre le Christ et mourir, voilà.
Alors, oui, c'est sûr que là, on est dans quelque chose aussi de la passivité. C'est-à-dire que y a une démarche de faire confiance à la parole du Christ et donc de traverser quelque chose. Et c'est-à-dire que dans l'Évangile, il y a cette notion, je crois, quand il dit... quand il dit qu'il perdra sa vie à cause de moi, l'assurera. Le à cause de moi, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il vient d'annoncer sur la paix. Le Christ, je pense, est celui qui nous fait cheminer dans le contenu qu'on donne au mot paix, le contenu qu'on donne au mot réussir sa vie.
Ouais.
Et au fond, dans la mesure où on accepte dans une conversation, comment dire, infinie, sur ce contenu, quand on se met à l'écoute du Christ qui parle en jeu, qui parle pour faire advenir chacun dans la relation, ben quand on se met à cette écoute-là, on est dans une démarche où on découvre toujours le contenu du mot paix, le contenu du mot vie. Et en fait, j'ai découvert cet été que le mot vie, là, c'est psyché.
Ah oui.
Et psyché, en fait, en grec, ça veut aussi dire... papillon.
Le souffle. Ah oui. Ah.
Oui. Alors il y a le souffle, il y a l'âme et tout ça, mais ça veut aussi dire papillon.
Ouais. Ah,
et derrière ça, il y a cette idée de chrysalide, de métamorphose, de transformation continue. Donc celui qui accepte que sa vie est une succession de métamorphoses, eh bien celui-là gardera sa vie à quelque part.
Je comprends.
Et, et donc la parole du Christ.
C'est une espèce de résurrection permanente en fait. Sais pas, c'est peut-être.
Oui, mais.
Non, c'est pas. Ouais.
Mais
la formulation est un peu bizarre peut-être.
Non, mais parce que justement le symbole du papillon, c'est le symbole de la chrysalide. Et on advient vers une autre dimension, dans une autre dimension, et qui au départ nous échappe. Donc il y a aussi cette notion-là. Mais derrière tout ça, si on veut avoir un symbole biblique, il y a aussi le symbole du baptême.
Oui.
Parce que le baptême est vraiment ce mouvement d'abandon, de confiance. Et c'est l'idée de la mort, c'est l'idée de la croix. Et puis, c'est cette idée aussi d'être relevé et d'être emporté.
Sauvé des eaux.
Sauvé des eaux vers une autre dimension.
Oui.
Et donc, là, il y a... Dans cette phrase, c'est pas mourir au sens de fataliste du terme, mais c'est, je pense, de regarder les épreuves ou les oppositions qui nous poussent à quitter ce qu'on connaissait comme relation, comme quotidien, comme des lieux où, accompagnés par la parole du Christ, dans ces épreuves-là, eh bien, on fait alliance à sa parole de manière à ce que, de tout ça, eh bien, cette parole nous fasse advenir papillons.
Tout à fait.
Et nous fasse advenir vers quelque chose de plus profond, un pays qu'on ne connaît pas, mais qui, une terre promise qu'on ne connaît pas, une relation qu'on ne connaît pas.
Oui.
Mais c'est en étant, comment dire, très en tendant l'oreille pour qu'on ne s'enlise pas sur ce chemin.
Pour entendre ça, oui.
Ouais, qu'on puisse avancer dans cette direction-là.
D'accord. Avant de te poser ma dernière question, je voudrais rendre à César ce qui est à César et Antoine Nouis ce qui est à Antoine Nouis. C'est lui qui a. J'avais beaucoup aimé cette.
C'est aussi un prénom de César, Antoine,
absolument,
non?
Absolument, tout à fait. Mais c'est lui qui avait employé le mot de sucre d'orge. Voilà, donc je me l'étais approprié, mais non, c'est lui qui l'avait trouvé. Voilà. Et donc ma dernière question, c'était sur les versets 40-42, les derniers du texte, le bout du texte. Pourquoi insister autant sur la récompense? Parce que justement, toi, ce qu'on vient d'entendre dans ce que tu as dit, finalement, agir de façon juste, au sens, comme il est juste de le faire, à nos propres yeux et aux yeux de Dieu, en fait, c'est notre propre récompense. Qu'aller chercher de plus? Enfin, je comprends pas bien les derniers versets aussi, je les trouve...
Oui, mais parce que là, on a beaucoup parlé de croix, de souffrance, d'épreuve et tout. Et au fond, le but, c'est la joie. Le but, c'est la joie.
Oui.
C'est pas, comment dire, de traverser cette vallée de larmes et de sanglots et en se résignant. La récompense, pour moi, j'entends, c'est comme dans la parabole, dans chez Matthieu, la parabole des talents, c'est entre dans la joie de ton maître.
Ah, voilà.
C'est de dire qu'au fond, cette traversée nous permettra d'accéder à quelque chose de qualité qui en vaut la peine. Et donc, déjà maintenant, on peut le découvrir. Et puis, c'est quelque chose qui se dévoilera totalement, pleinement, plus tard. Mais cette récompense, c'est pas l'idée de « si t'es sage, tu auras...
» Oui, voilà.
Mais c'est une idée... Si on n'a pas une perspective positive, pourquoi est-ce qu'on se mobiliserait?
Oui, bien sûr. Oui, donc et ce texte-là, qui apparemment, justement, est un peu plombant, disons le terme,
oui.
en toute première lecture, est un texte d'espoir, finalement, et de mise en marche.
Mais tu as remarqué aussi, il ne précise pas le type de récompense.
Non, c'est vrai.
C'est-à-dire, quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Il ne précise pas.
Oui.
Et donc, en gros, la récompense, c'est peut-être simplement le plaisir d'avoir donné le verre d'eau et d'avoir eu un temps d'échange et de discussion.
Bien sûr.
C'est peut-être complètement futile, mais je veux dire, en le faisant, tu trouveras le miel qui te permettra de savourer la vie, d'apprécier l'existence. Donc, ne le fais pas dans un esprit résigné et contrit. Mais trouve au cœur même de ce que tu vis comme démarche d'accueil, comme démarche de rencontre avec l'autre, comme démarche de parole où il y a le couteau qui passe, trouve dans tout cela le miel, la récompense déjà là, qui est levée, qui est cachée au cœur de tout ça, mais qui est là. Et donc, c'est en vivant et en savourant ces récompenses jour après jour que petit à petit, on s'ouvrira à cette grande attente qui nous emmène plus loin, ce que Jésus appelle le royaume.
Voilà. Très bien. Je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on est passé finalement de l'épée au couteau de sacrifice et finalement au miel. Moi, ça me va très bien.
Pour étaler le miel sur les tartines, couteau, il n'était pas approprié. Il faudrait quelque chose de plus large.
Absolument. Très bien. Bah, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission.
Avec plaisir. Et si vous avez des textes bibliques, chers auditeurs, que vous souhaiteriez que nous abordions dans cette émission La Bible est un parfum de scandale, eh bien, n'hésitez pas à nous le transmettre. Babette Soulier la porte. Ou Luc-Olivier Bosset, ou eh bien à l'équipe de la radio FM+. Merci de votre fidélité et à bientôt.
À bientôt.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.